Bienvenue à l'émission qui déclare la grâce souveraine et éternelle de Dieu en Jésus-Christ, l'évangile glorieux du Seigneur Jésus-Christ et son œuvre accomplie à la croix pour les pécheurs que Dieu le Père a ordonné à ce salut. Puisse-t-il nous accorder des oreilles pour entendre les attributs glorieux de Jésus-Christ à travers ce message tiré de sa parole inspirée.
Mon texte aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon Jean et le chapitre 29 et le titre de cette étude c'est « Voici l'agneau de Dieu » et cela provient de ce que nous lisons ici, les paroles de Jean-Baptiste qui préparait le peuple pour la venue du Seigneur Jésus-Christ, et il était dans le désert en train de prêcher à ceux que le Seigneur a amenés auprès de lui et annoncer que le Christ devait venir. Tout l'Ancien Testament a déjà prophétisé sa venue, et alors le moment est venu pour Christ de se présenter publiquement au peuple. Et dans Jean chapitre 1, tout le chapitre est dédié à annoncer qui est ce Jésus qui devait venir. Et ça, c'est un point important, parce que beaucoup aujourd'hui parlent de Jésus. Ils utilisent le titre Christ, mais la question est de savoir si le Jésus en qui il croit est véritablement celui de la Bible. Parce que même Paul, en écrivant aux Corinthiens, disait qu'il y a un autre Jésus, il y a un autre esprit, il y a un autre évangile, et on doit faire attention. Donc, dans ce premier chapitre de l'Évangile selon Jean, il commence en déclarant que ce Jésus qui devait venir et qui est venu selon les prophéties de l'Ancien Testament est la parole de Dieu. Donc nous allons revenir ici tout à l'heure dans Jean 1 et le verset 29 où Jean dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais avant de déclarer cela, nous voyons l'apôtre Jean déclarer dans le verset 1 qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors quand on dit au commencement, cela veut dire depuis l'éternité, quel que soit le commencement, depuis la création du monde, si vous voulez que ça soit le commencement ou bien depuis l'éternité, était la parole, cela veut dire éternel, et cette parole était avec Dieu, mais ce n'est pas qu'il y a deux différents dieux, parce que c'est écrit et la parole était Dieu. C'est un mystère que nous avons quand on contemple le Dieu de la Bible. C'est qu'il est un Dieu trinitaire. Il y a le Père, il y a le Fils, et puis le Saint-Esprit. Mais les trois sont un. On ne va pas trouver peut-être le mot trinitaire ou trinité dans les Écritures, mais certainement la divinité est là. Cela veut dire le Dieu qui est unique, mais en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et en ce qui concerne le salut, ce Dieu trinitaire œuvre pour le salut des pécheurs. La Bible dit que le Père a choisi depuis l'éternité les pécheurs qu'il devait sauver. Et pour honorer son Fils, qui est aussi le Fils de Dieu éternel depuis l'éternité. C'est écrit ici, la parole était Dieu. Donc tout cela s'est passé dans l'éternité, pour l'éternité. Mais il a donné un peuple à son Fils, que le Fils devait, au moment pourvu par le Père, venir accomplir le salut par sa vie parfaite et aussi son sacrifice à la mort. L'agneau de Dieu devait être l'agneau qui versait son sang. Et puis, l'œuvre du Saint-Esprit, les trois sont en harmonie. Et le Saint-Esprit a pour but d'attirer à Christ tous ceux que le Père a choisis et qu'il a donnés à son Fils. Alors tout cela c'est important pour comprendre le message de Jean-Baptiste lorsqu'il prêchait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Nous savons qu'avant la venue de Christ dans la chair, il y avait les sacrifices dans l'Ancien Testament. Et ces sacrifices étaient des représentants de Jésus-Christ qui devait venir et donner sa vie pour le salut de ce peuple que le Père lui a donné. Donc c'est significatif quand ici Jean-Baptiste annonce, voici l'agneau de Dieu. C'était un homme, donc c'est dit ici au sens figuré, mais l'agneau de Dieu, l'agneau qui devait servir de sacrifice pour le salut de ce peuple que le Père a choisi et donné à son Fils. Dans Genèse chapitre 22, il y a un passage là où Abraham devait aller sur la montagne et, selon le commandement de Dieu, offrir son fils Isaac en sacrifice. Et lorsque les deux allaient sur la montagne, son fils, dans Genèse chapitre 22, et le verset 7 posait une bonne question. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et voici la réponse qu'Abraham a donnée à son fils, qui maintenant, Jean-Baptiste, déclare l'accomplissement. Parce qu'Abraham a dit dans Genèse 22, verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Quand c'est écrit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau, ça signifie que, premièrement, Dieu lui-même pourvoira cet agneau qui devait servir d'holocauste pour satisfaire à sa justice. Et une fois son œuvre accomplie à la croix, pour cela, tous ceux pour qui il devrait payer cette dette, ça devait être maintenant leur réconciliation, leur justification devant Dieu. Mais aussi, quand c'est écrit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau, je pense qu'on doit comprendre cela dans le sens Dieu lui-même sera cet agneau. Puisqu'il est Dieu dans la chair, Jésus-Christ, Dieu dans la chair. Et dans Jean chapitre 1 et le verset 14, c'est ce que nous lisons. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. C'est intéressant que ce mot habiter, c'est le mot tabernacle. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait ce tabernacle. C'était le centre de culte. Et c'est là que les sacrifices étaient offerts à Dieu. Les agneaux amenés là pour être sacrifiés à Dieu pour le pardon du péché du peuple. Ces sacrifices d'agneaux ne pouvaient pas ôter les péchés, mais c'était comme une couverture que le sang de ces animaux devait servir comme couverture jusqu'à ce que Christ l'agneau vienne. Alors voilà la signification encore de ce que Jean-Baptiste prêchait lorsqu'il dit « Voici l'agneau de Dieu, c'est important, qui ôte le péché du monde. » Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la rémission des péchés. Les péchés étaient couverts par le sang de ces animaux. Ce n'est que avec la venue de Jésus-Christ et lui donnant sa vie, versant son sang comme l'agneau de Dieu. Donc des milliers, des millions d'agneaux qui ont été offerts dans l'Ancien Testament étaient jusqu'à ce que Christ lui-même s'est offert en sacrifice. Et alors, le péché était ôté à ce moment-là, à la croix. Si quelqu'un veut savoir, par exemple, même Abraham et Isaac, à quel moment est-ce que leur péché était ôté, il faut dire que c'était au même moment que tous ceux qui sont les élus de Dieu, les pécheurs que Dieu a prédestinés au salut. C'est une seule place, une seule offrande, un seul sacrifice. C'est le Seigneur Jésus-Christ et son sang versé. Voilà où Jean, en écrivant ici dans son évangile, nous amène pour contempler celui qui est venu dans la chair. Et c'est pourquoi dans Jean 1,14, il a dit que la parole a été faite chair. Bon, la parole, c'est Dieu, dans le verset 1. Donc, Dieu a été fait chair et Dieu a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Voilà deux attributs de Dieu qui doivent être harmonisés pour le salut des pécheurs. D'un côté, la grâce, oui, Dieu fait grâce, mais ça doit toujours être selon la vérité. Dieu ne peut pas minimiser sa loi ou sa justice afin de sauver qui que ce soit. Donc, la question se pose, où est-ce que la grâce et la vérité se sont mariés, ces attributs. C'était en Jésus-Christ. Et c'est à la croix. Dieu a ordonné que ça soit à travers son Fils unique, le Saint Jésus-Christ, qu'il ferait grâce aux pécheurs. Mais pour que cela se réalise, Christ devait alors venir comme le substitut de ce peuple et payer la dette, satisfaire à la justice de Dieu, afin que Dieu soit juste tout en justifiant les pécheurs. Donc, plein de grâce et de vérité, dans le verset 14. Et Jean dit, ça c'est Jean, le disciple, l'apôtre, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dans l'Ancien Testament, la gloire résidait au-dessus de cette arche de l'Alliance, où une fois par an, un souverain sacrificateur prenait le sang de l'agneau qui était immolé ce jour-là, ou bien des boucs, et aller asperger l'arche de l'Alliance à travers le voile qui séparait les deux parties de ce tabernacle, le lieu saint et le lieu très saint, une fois par an. Mais il fallait que ça soit seulement avec du sang. Et le témoignage de la présence de Dieu était là, dans le nuage qui représentait la gloire de Dieu. Alors, le langage qui est employé ici nous montre que tout cela préfigurait le Seigneur Jésus-Christ, parce que Jean dit, nous avons contemplé sa gloire. Exactement comme dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël pouvaient visiblement voir la gloire de Dieu au-dessus du tabernacle et au-dessus de l'Arche de l'Alliance qui était à l'intérieur de ce temple, un lieu très saint. Et c'est la même parole que Jean utilise ici, nous avons contemplé sa gloire. C'est la gloire de Dieu. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors Jean, verset 15, lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Les gens étaient fascinés par Jean-Baptiste puisqu'il prêchait dans le désert. Et il avait un aspect différent que ceux de son jour qui prêchaient. Et ça ne m'étonne pas, parce que quand Dieu sépare ses serviteurs, il les distingue des autres, non seulement dans leur conduite, mais dans leur message, ce qu'ils ont à annoncer. Alors les gens venaient par curiosité, pour la plupart, pour voir qui est celui qui prêche. Et certains imaginaient que peut-être c'était lui le Messie. Mais il dit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Quand il dit il m'a précédé, c'était à ce moment-là que le Seigneur Jésus devait se manifester publiquement au peuple. Et il devait avoir à peu près l'âge de 30 ans au moins. Et si vous étudiez l'Ancien Testament, vous allez voir que c'était à cet âge-là que les sacrificateurs entraient dans le ministère. Donc presque 30 ans plus ont passé déjà quand maintenant Christ vient pour se manifester publiquement. Mais sa venue dans la chair n'était pas son commencement. Quand Jean dit « il m'a précédé car il était avant moi », il parle encore de l'éternité de Christ, bien sûr, né dans ce monde, comme Jean-Baptiste, mais il m'a précédé. Cela veut dire qu'il est le Fils de Dieu depuis l'éternité. Et Jean dit, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Sa plénitude, qui peut comprendre et appréhender le mystère de Dieu dans la chair avec tous ses attributs? Mais c'est ce que Jean déclare ici. Glorieux est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Quand il dit nous avons tous, il parle de pécheurs pour qui Christ est venu. Et ils reçoivent de sa plénitude. Cela veut dire de sa grâce et de sa miséricorde qui est en lui. C'est grâce à lui que nous sommes sauvés et nous avons besoin de sa plénitude parce que grand est notre péché. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Ça, c'est ce qui est glorieux concernant la grâce de Dieu, que c'est grâce pour grâce. On a besoin de la grâce de Dieu lorsqu'on est pécheur. Mais la vérité, c'est que quel que soit le péché, et c'est attaché à nous. On ne peut pas fuir quelque part pour sortir du péché, parce que nous sommes pécheurs. Ça, c'est important de souligner. Nous sommes pécheurs, alors il nous faut grâce pour grâce. Je sais qu'il y a certains, dans le verset 17, qui imaginent que dans l'Ancien Testament, c'était la loi. Donc, il n'y avait pas de grâce dans l'Ancien Testament. Mais tel n'est pas vrai. la loi a été donnée par Moïse. Cela veut dire qu'il fallait cette loi pour révéler la sainteté de Dieu et montrer notre péché. Mais dès qu'il n'y avait pas de grâce dans l'Ancien Testament, à quoi servaient alors les sacrifices ou bien les sacrificateurs? Non, il y avait la grâce même de Noé. Dans Genèse 6, c'est écrit qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il y a l'élection de la grâce. Ceux de l'Ancien Testament que Dieu a sauvés étaient sauvés selon l'élection de la grâce. Ils étaient sauvés par la rédemption de Jésus-Christ. Bien sûr, ils sont morts avant que Christ n'est venu verser son sang, mais Dieu était gracieux envers eux et les considérait comme ses enfants et sauvés en vue de l'œuvre que Christ devait venir accomplir. C'est pourquoi c'est écrit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce n'est pas dit de cette manière pour séparer les deux, mais pour dire que tout ce que la loi annonçait était achevé, complété par la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et en lui, nous voyons ses attributs alors de la grâce et la vérité accomplis afin que Dieu soit juste tout en justifiant les pécheurs. Alors tout cela est important de considérer avant de comprendre les profondeurs de ce verset Jean 1 et le verset 29 qui est mon texte où c'est écrit le lendemain il vit Jésus venant à lui. On doit s'arrêter là et considérer que si Christ ne vient pas vers le pécheur ne pourrait jamais venir à Christ. Je sais qu'il y a un message populaire qui place Jésus quelque part et maintenant c'est au pécheur de courir à lui, venir à lui, autrement il n'y a pas de salut. Mais tel n'est pas le message de la Bible. Ici, c'est écrit, il vit Jésus venant à lui. La seule raison que nous puissions connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il a daigné se révéler en nous. Le Christ de la Bible, je sais, il y a des gens qui forment des idées de Jésus, mais le Christ de la Bible est celui qui se révèle. Il était déjà dans le pays. Il vivait parmi les Juifs, mais jusqu'à ce que Christ lui-même s'est présenté publiquement, s'est révélé, personne ne savait qui il était. Alors ça, c'est le premier point. Il vit Jésus venant à lui. Et c'est comme ça le salut a été accompli. Christ venu dans le monde. Il est venu habiter, tabernacler parmi le peuple afin de sauver ceux que le Père lui a donnés. Mais deuxièmement, nous voyons ici son caractère. Qui il est? L'agneau de Dieu. Et voilà pourquoi j'ai pris le temps d'aller dans l'Ancien Testament et voir comment tous ces agneaux sacrifiés étaient une image de Christ, l'agneau de Dieu. Mais nous savons que le sang des agneaux et des boucs ne peut pas ôter le péché. C'est le sang de Jésus-Christ qui est le remède pour le péché. Voici l'agneau de Dieu. Et pour ceux qui prêchent, je dois dire que un message prêché sans l'agneau n'est pas l'évangile. Comment est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un prêche l'évangile ou non? Celui qui prêche l'évangile annoncera voici pas un des agneaux, mais voici l'agneau de Dieu. En parlant de Jésus-Christ, c'est à travers son offrande personne n'a ôté la vie du Christ. Je sais qu'il était livré entre les mains des hommes afin que les hommes le crucifient. Il était même livré entre les mains des sacrificateurs du jour. Mais Dieu, à travers leur rébellion, en voulant crucifier le Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas fait une chose plus ou moins de ce que Dieu lui-même a ordonné. En offrant Jésus-Christ pour être crucifié, en le livrant pour être crucifié, ils étaient en train d'offrir l'agneau de Dieu. Sans le savoir, ils étaient des souverains sacrificateurs dans leur fonction, mais ils étaient aveugles. Pourtant, Dieu s'est servi de ces hommes pour accomplir sa volonté en offrant son Fils pour le salut de ce peuple qu'il a ordonné depuis l'éternité. Dans Actes chapitre 2, Pierre a prêché ceci. Le jour de Pentecôte, il a dit, « Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Alors, Jean-Baptiste, en annonçant, « Voici l'agneau de Dieu », il déclarait le remède pour le péché. Et nous voyons aussi l'étendue du sacrifice de Christ. C'est écrit ici qui ôte le péché du monde. Il y en a qui disent que ce monde veut dire tout le monde, sans exception. Mais si tel était le cas, cela voudrait dire alors qu'il n'y a plus de péché. Et que alors il n'y a plus de jugement. Mais tel n'est pas le cas. Non, ici, l'étendue du sacrifice du Christ était pour des pécheurs du monde. Cela veut dire de toutes les races, de toute langue, de tout peuple. Mais pas tous les pécheurs de toute nation. Mais une représentation de chaque pays, de chaque langue, de tout peuple. C'est ce que nous voyons dans le livre d'Apocalypse. Et le chapitre 5, verset 9, où c'est écrit, il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. » Donc tel est le plan de Dieu pour le salut des pécheurs. Donc voilà le remède, voilà l'étendue de son sacrifice, mais nous voyons aussi l'efficacité de son sacrifice, parce que c'est écrit, voici l'agneau qui ôte le péché. Pas seulement couvrir, mais ôte le péché. C'est pour ça que je peux dire, selon la parole et l'évangile qui est révélé ici, que si Christ est mort pour un pécheur, donc il n'y a plus de condamnation pour ce pécheur. Le salut est en Christ et ce que Christ a accompli et non pas en nous. Mais il y en a aussi qui prêchent aujourd'hui que oui, Christ est mort, mais il faut que l'homme fasse sa part pour que ça soit efficace. Mais tel n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est que le salut vient de Dieu du début jusqu'à la fin et que ce salut est dans cet agneau qui est venu, Dieu dans la chair, et qui s'est offert lui-même afin que Dieu soit juste tout en déclarant juste les pécheurs pour qui il est mort. Voici la bonne nouvelle de l'évangile que nous avons annoncé. Et pour ceux qui sont des pécheurs sauvés par cette grâce, ça représente toute leur joie. Alors pour cela, je glorifie le Seigneur.
Vous venez d'écouter un message qui vous a été présenté par Ken Wymer, prédicateur de l'Évangile de la grâce de Dieu aux États-Unis. Pour plus d'informations sur le message ou d'autres renseignements, veuillez visiter notre site sur l'internet www.kenwymer.com. shrevegrace.org.